Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Il est une question que bien peu de gens se posent. Nous vivons une époque charnière dans l'histoire de l'humanité. Or, comme du temps de Noé, rares sont ceux qui semblent se soucier de l'avenir. On vit au jour le jour, on ne pense qu'à soi. L'hédonisme est roi et l'égoïsme empereur. Or, en rétrospective, quand notre vie s'achèvera, quel en sera le bilan? Il est souvent illogique pour un jeune de se poser une telle question. On a toute sa vie devant soi. Et l'on est plutôt enclin à se soucier du temps présent. Mais est-ce une lacune uniquement chez nos jeunes, ou certains de nos jeunes? Ne les mettons pas tous dans la même catégorie. Les plus âgés planifient-ils automatiquement mieux leur vie? Beaucoup d'adultes ne mûrissent jamais. D'après la Bible, notre époque ressemble à celle de Noé, repue d'insouciance, d'irresponsabilité, autant que de méchanceté et de violence. Et j'en passe. La réussite de toute une vie dépend souvent des orientations de notre jeunesse. Pour réussir, il faut savoir planifier. Monsieur Miqueux m'a demandé de vous parler de la planification de nos vies. C'est donc ce que je vais m'efforcer de faire pendant l'heure qui suit, souhaitant humblement ajouter un peu d'eau à votre moulin. C'est là un vaste sujet, comportant de nombreuses facettes. Je me concentrerai aujourd'hui sur ce qui, dans le planning de nos vies, revêt une ultime importance. Il y a en effet deux domaines clés. Premièrement, la planification de notre existence physique, et deuxièmement, celle de notre avenir spirituel. Pour un chrétien, ces deux aspects sont évidemment liés. Des choix importants s'imposent. Que l'on soit jeune ou d'âge mûr, notre Père céleste et son Fils Jésus-Christ souhaitent que nous fassions comme eux, et notamment que nous soyons sages et organisés. Mais pourrons-nous dire un jour avec satisfaction, je ne regrette rien. J'ai fait mon possible. J'ai été bon et fidèle serviteur, ou une fidèle servante. L'Éternel est témoin que je l'ai aimé et aimé ses voies, et que je me suis efforcé de lui obéir de mon mieux. Quand nous nous posons une telle question, ce que nous faisons physiquement est étroitement lié à notre avenir spirituel. Cette existence physique a des implications spirituelles. Que pourrons-nous dire un jour? En rétrospective. Quand on est jeune, on a toute la vie devant soi, comme je le disais. On ne pense guère à ses vieux jours. C'est bien loin tout ça. On a tendance à vivre dans le présent. On cherche à profiter au maximum de sa jeunesse. Et il n'y a rien de mal à cela, pour autant que l'on fasse les bons choix. Voyons-nous de loin quand nous faisons nos projets? André Gide, écrivain et prix Nobel de littérature français du XXe siècle, écrivit à propos de la jeunesse que, je cite, l'homme ne la possède qu'un temps. Et le reste du temps la rappelle. Bon, je doute fort qu'il pensait à notre avenir dans le royaume. Il parlait de notre jeunesse physique. Seulement une partie de l'équation. Cette vie n'est qu'une nuée, une lueur, une simple goutte d'eau dans l'océan de l'éternité, et la jeunesse est éphémère. Ce que nous faisons revêt donc une importance capitale. Reportons-nous ensemble, si vous le voulez bien, à Ecclésiaste chapitre 11 et le verset 9. Ecclésiaste chapitre 11 et le verset 9. Ecclésiaste 11, 9. Jeune homme ou jeune femme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Profites-en, il faut profiter de sa jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais, ce petit mot « mais » est important, mais sache que pour tout cela, pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. En fonction de ce que nous faisons, Dieu nous jugera. Et à nouveau, le jugement dans la Bible n'est pas nécessairement synonyme de condamnation, mais Dieu nous met à l'épreuve et il veut que nous rendions des comptes. À nouveau, dans la plupart des cas, je pense que pour nous autres chrétiens, ce sera un jugement positif, mais c'est une évaluation quand même, c'est un jugement. Donc tout ce que nous faisons, tout ce que nous planifions, nous devons réellement y réfléchir. Ce que nous venons de lire ici, c'est ce que l'Ecclésiaste, le roi Salomon, pour ainsi dire, c'est tout à fait le cas, le roi Salomon, un homme qui profita à fond de sa jeunesse, c'est ce qu'il a dit. Il profita à fond de sa jeunesse, mais en revanche ne planifia pas très sagement sa vieillesse, comme nous le savons. Il ajoute cependant au verset suivant, au verset 10 du même chapitre, de ce chapitre 11, ou au chapitre 12 selon les versions que vous avez, il ajoute « Éloigne de ton corps, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. » Et au verset suivant, « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. » Non seulement dans ta vieillesse, mais dans ta jeunesse aussi. Éloigne de ton corps, souviens-toi de ton Créateur, des éléments clés, n'est-ce pas? Les décisions que nous prenons quand nous sommes jeunes affectent considérablement notre avenir. Mais pas seulement dans cette vie physique, mais notamment dans le royaume. Mais il en va de même pour les autres, pas seulement les jeunes, mais les autres, pour tout le monde, pour vous et moi, n'est-ce pas? En fait, vous, nos jeunes dans l'Église, vous avez généralement la tête où il faut, et je dois dire que nous avons pour vous le plus souvent des éloges. Mais parlons de nous tous, fût-ce uniquement un rappel de nos tâches et de nos responsabilités. Certes, à vous les jeunes qui m'écoutez, je vous dis, ne gâchez pas votre vie, votre jeunesse, comme le font tant d'autres. Réfléchissez bien à ce que vous faites. Investissez dans votre avenir, au niveau éternel. Comme le disait l'universitaire américain et physiologiste des plantes, Aldo Leopold, je cite, « Ce dont la jeunesse a besoin, c'est qu'on lui dise qu'il y a un bateau en construction dans sa propre cale sèche mentale et que ce bateau est destiné à prendre la mer. Pour nous autres chrétiens, je dirais que ce bateau a pour destination le royaume de Dieu. Sachez vous préparer pour l'avenir, pour vos responsabilités futures, et par voie de conséquence, pour la réussite et non pour des défaites futures. La romancière Sophia Sherin Hutt a dit que, je cite, « La jeunesse doit recouvrir une vision émerveillée sur le monde, ainsi qu'une vision authentique sur la vie. Tous les jeunes de par le monde sont cette énergie vive, à qui incombe la responsabilité de redonner sa place à la sensibilité humaine, usurpée par le faux-semblant. La conscience fait le génome humain, écrit-elle un peu plus loin. Nous sommes tous des créateurs de récits et des héritiers d'histoires génétiques. Je trouve que cela s'harmonise avec notre vision chrétienne. Elle a aussi ajouté que la jeunesse est l'espoir des lendemains. Mais il est question dans tout cela de préparation. La jeunesse est le temps d'étudier la sagesse, a écrit le philosophe suisse du XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau. Il est vrai que ce doit être notre point de départ. Et c'est ce qu'il nous faut faire. Commencer par planifier, par nous organiser. Car Jean-Jacques Rousseau a ajouté dans la même lancée, la vieillesse est le temps de la pratiquer. Mais qu'en est-il des autres? des moins jeunes et des anciens? Y a-t-il que les jeunes qui doivent organiser ou planifier leur vie? Nous devons tous planifier nos vies, organiser nos vies, notre emploi du temps. Que nous soyons jeunes ou d'âge mûr, chaque jour, en fait, nous devons nous organiser, planifier ce que nous allons faire. Dans cette ère de méchanceté, de violence, d'instabilité croissante, où les structures sociales de pratiquement tout le pays se désintègrent rapidement, où les valeurs morales disparaissent, où l'anarchie se répand, où les gouvernements sont renversés, il importe de nous demander si le retour de Christ n'est pas imminent. Et une mise au point s'impose. Qu'avons-nous prévu? Nous devons structurer sagement nos vies, titre de mon message d'aujourd'hui. Nous devons structurer sagement nos vies, nous tous, et constamment. Nous devons organiser nos vies en fonction des deux prémices suivantes. Nous avons été créés, première prémisse, nous avons été créés pour un avenir spirituel. Il y a beaucoup plus que cette vie physique. Alors tout doit être basé sur cet avenir ultime. Et la deuxième prémisse, c'est que Christ va revenir. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 10. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Bien, mal. Tribunal, tribunal est un mot un peu fort. Souvent, quand on pense à un tribunal, ça fait un peu peur, n'est-ce pas? Mais rappelez-vous que le tribunal de Christ n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Que cela peut être très positif, que ce sera un moment où les vrais serviteurs de Christ, par exemple, s'entendront dire « c'est bon ». C'est bien bon et fidèle serviteur. Donc le mot tribunal ne doit pas nous effrayer, mais doit nous faire réfléchir, n'est-ce pas? Alors il nous faudra tous rendre des comptes. Tout ce que nous faisons doit donc s'inscrire dans le contexte de Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33, vous connaissez le passage, mais reportons-nous-y parce que c'est un passage clé dans cette question de structuration de nos vies. Matthieu 6, 33. Vous avez probablement mémorisé ce passage, mais reportons-nous-y. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement, voilà notre priorité, cherchez premièrement, non pas la satisfaction ou la réussite dans cette vie, mais premièrement, chercher premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu. À nouveau, notre destinée est une destinée merveilleuse, éternelle, spirituelle. C'est cela qui compte le plus. Tout, je dis bien tout, absolument tout, doit être basé sur notre avenir spirituel. Qu'il s'agisse de notre carrière, de notre vie conjugale, de nos activités, de nos relations ou autres, tout doit être basé sur notre avenir spirituel. Ou bien nous sommes chrétiens, ou bien nous ne le sommes pas. Ou bien nous sommes appelés, ou bien nous ne le sommes pas. Ou bien nous voulons hériter la vie éternelle, ou cela nous laisse indifférents. À long terme, quels sont les domaines qui doivent surtout nous préoccuper, donc? Nous sommes tous concernés par... Parce que Pierre a dit, par exemple, dans 1 Pierre 4, 17, et je cite, « C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Pierre a écrit cela il y a 2000 ans. Et les chrétiens, et pour les chrétiens, ce jugement a commencé. Notre Père Céleste et Christ nous observent, il nous regarde, il nous évalue, à nouveau, pas nécessairement négativement. Souvent, il voit en nous une grande croissance, une certaine croissance. Il n'est pas là pour nous condamner, mais il nous évalue. Le jugement a commencé pour nous autres dans l'Église. Pour le restant du monde, ça n'a pas d'importance. Le jugement viendra plus tard, mais pour nous, il a commencé ce jugement. Alors nous devons donc premièrement donner la priorité à notre formation spirituelle et deuxièmement, nous devons planifier ou organiser notre vie physique. En conséquence, pardon. Et plus nous nous développons, plus notre contribution augmente. Notre contribution aussi bien physique que spirituelle. Alors, notre relation avec Dieu, cela, c'est ce qu'il y a de plus important, frères et sœurs. Cela doit passer avant tout, car nous devons baser tout ce que nous faisons sur notre ultime destinée, sur la raison pour laquelle nous sommes nés. Par voie de conséquence, notre éducation, notre culture générale, notre apprentissage des vraies valeurs, des valeurs divines, spirituelles, ça est important. Notre bagage scolaire, technique, professionnel et universitaire va déterminer dans une certaine mesure notre statut dans la société. Identifiez les sujets ou les matières où vous êtes bon, vos matières fortes, et misez sur vos aptitudes naturelles. Alors là, je parle des jeunes, bien sûr, mais je parle aux moins jeunes aussi, parce que c'est un processus de toute une vie, n'est-ce pas? Cherchez néanmoins toujours à vous cultiver, hein, si vous n'avez pas accès à un enseignement supérieur, et nous avons des membres dans diverses parties du monde, ce n'est pas toujours facile d'avoir accès à un enseignement supérieur. Mais faites votre possible. Et rappelez-vous que nous devons toujours nous enrichir spirituellement et intellectuellement aussi, mentalement, parce que tout cela, c'est un tout. Ce que nous faisons physiquement a des répercussions dans ce que nous pouvons fournir à l'Église et aussi spirituellement, éventuellement. Rappelez-vous que plusieurs grands hommes de ce monde étaient des autodidactes. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de vous instruire, ne vous découragez pas. Apprenez. Hein, les autodidactes, ce sont les gens qui s'instruisent eux-mêmes. Abraham Lincoln, par exemple, l'un de nos présidents américains, était autodidacte. Il s'est beaucoup, il s'est en somme éduqué lui-même. Il lisait beaucoup, mais c'est cela la clé. Nous devons continuer à nous enrichir, à étudier, à apprendre. Continuez de vous enrichir dans votre vie professionnelle. Apprenez à être bon dans ce que vous faites, à rechercher l'excellence en tout. Parce que ça, c'est un caractère divin, un trait divin. Sortez de l'ordinaire. Votre but n'est pas d'être comme monsieur ou madame tout le monde. Si vous êtes jeune, planifiez votre future vie conjugale. Prenez le temps de bien connaître votre futur conjoint ou conjointe avant de prononcer le oui. Moins vous le ferez, et plus il y aura des inconnus, des surprises, pour ne pas dire des déceptions dans votre vie conjugale future. On apprend à aimer. C'est un long processus. Et ne gâchez pas vos vies par des relations sexuelles illicites. Maintenant, impliquez-vous dans l'Église. Impliquez-vous dans l'Église. Apprenez à servir. Intégrez-vous dans la fraternité des enfants de Dieu. Ne vous concentrez pas sur l'ivraie. Il y a toujours de l'ivraie dans l'Église. Il y a des gens parmi nous qui peuvent être gentils, sympathiques, mais qui sont l'ivraie, qui ont toujours des objections pour une chose ou pour une autre et qui n'ont rien compris. Il y en a toujours. Dans pratiquement toutes les congrégations d'une certaine taille, il y a de l'ivraie. Et ça, c'est à Dieu de s'en occuper. Et rappelez-vous que Christ a dit que l'ivraie va rester au milieu de nous jusqu'au retour de Christ, jusqu'à son retour, jusqu'à la moisson. Et là, cela met en quelque sorte la pression un peu sur nous, parce que individuellement, c'est à Dieu que nous devons rendre des comptes. Et nous sommes responsables de notre croissance spirituelle. Essayez de vous maintenir en bonne santé aussi. Tout cela fait partie de cette structuration que nous avons besoin d'avoir dans nos vies, cette planification de nos vies, pour être des bons serviteurs. La jeunesse sait ce qu'elle ne veut pas avant de savoir ce qu'elle veut, disait Jean Cocteau, poète, écrivain, cinéaste et dramaturge français du XXe siècle. C'est intéressant cela, n'est-ce pas? La jeunesse sait ce qu'elle ne veut pas avant de savoir ce qu'elle veut. Mais sachons ce que nous ne voulons pas. Ce que nous ne voulons pas, c'est des voies de Satan, des voies de ce monde. Ce que nous voulons, c'est des critères bibliques, divins, chrétiens, et non ceux de ce monde. Nous souhaitons posséder des connaissances qui sont utiles, précieuses, qui en valent la peine, et non des connaissances inutiles, triviales, superficielles, stériles. Ce que nous faisons n'est pas pour les copains ou les amis, mais pour nous. Il s'agit de notre vie, une vie qui est infiniment précieuse aux yeux de notre Créateur, et quelle que soit notre nationalité ou notre race. Tous les humains sont des enfants de Dieu destinés à la gloire et à l'immortalité. Cette vie est une préparation pour une vie spirituelle, la vie spirituelle que notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ a prévue pour nous. Typiquement, quand nous sommes jeunes et dans l'Église, nous devons donc commencer par, premièrement, nous fixer un but. Premièrement, nous fixer un but ou l'objectif qui convient. Pas n'importe quel but, mais le bon but. Ce but doit être avant tout le royaume de Dieu. Atteindre cet objectif nous prendra toute une vie. Mais pour y arriver, nous devons commencer par exploiter à fond nos aptitudes et nos possibilités dans cette vie. Dieu nous a donné à tous des talents différents. Je regarde ici, par exemple, l'équipe que nous avons ici au bureau central. C'est incroyable. Vous savez, nous avons tous notre niche, en quelque sorte, comme on dit ici. Nous avons tous un domaine dans lequel nous sommes bons. Mais nous ne pouvons pas faire ce que les autres font. Mais nous avons tous une spécialité et nous travaillons tous ensemble. Et c'est merveilleux de voir cela. Mais Dieu nous a confié des talents différents. N'enviez pas les autres pour le talent qu'ils ont. Vous avez le vôtre. Ne nous comparons pas aux autres, mais apprécions les talents que Dieu a placés dans nous tous, des talents physiques, des talents intellectuels et autres. La deuxième chose que nous devons commencer par faire, c'est d'avoir une bonne éducation. Je reviens à cela. Je parle aux jeunes aujourd'hui et aux moins jeunes par voie de conséquence aussi, parce que nous devons continuer à nous éduquer, à nous améliorer. Nous devons donc acquérir une bonne éducation, nous instruire, apprendre le plus possible et pratiquer ce que nous avons. Si quelque chose est juste dans la tête, à quoi ça sert si nous ne le pratiquons pas? Apprenons un métier, ayons une carrière. Pour y parvenir, nous devons nous maintenir en bonne santé. Efforçons-nous de le faire dans ce sens. Je sais, ce n'est pas toujours facile, et avec le monde dans lequel nous vivons, nous faisons de notre mieux, mais ce n'est pas toujours facile. Mais c'est un objectif quand même à respecter. Si nous sommes en bonne santé, nous aurons l'énergie pour avancer, pour croître, et nous devons faire preuve d'initiative. Après, ça soit rester assis sur la chaise toute la journée à ne rien faire. Initiative, faire quelque chose. Nous devrons aussi être débrouillards. Et après cette débrouillardise, nous devrons aussi persévérer. Vous voyez, tout cela fait partie de notre planification de notre vie. Et faire ces choses en maintenant un contact étroit avec Dieu, et notre succès dépendra de notre relation avec lui. Pour les anciens, vous avez peut-être reconnu cette loi du succès. Cette loi du succès. C'est de cela qu'il est question. Mais même pour les moins jeunes, nous devons continuer à nous concentrer sur ces choses. L'écrivain, poète et romancier du XIXe siècle, Victor Hugo, écrivit que, je cite, « Selon que vous serez fou ou sage, vous composerez les rêves de votre vieillesse, des regrets de votre jeunesse ou des espérances de l'éternité, l'un ou l'autre. Nous récoltons ce que nous avons semé. Puisse-t-il s'agir, pour nous autres chrétiens, des espérances de l'éternité ?» Comme il le dit. Reportons-nous à Galates chapitre 6, verset 4. Galates chapitre 6 et le verset 4. Galates 6, 4. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Le verset 5, car chacun portera sa propre charge. Nous avons tous une charge différente. Je vois ça dans l'Église, nous voyons cela, c'est chacun a une charge différente. Nous sommes uniques. Dieu nous a placés dans son Église, nous avons des talents différents les uns des autres, nous nous complétons, il n'y a pas de compétition, de concurrence, nous devons apprendre à travailler ensemble. Et c'est merveilleux ce que l'on peut accomplir lorsque, Comme ici, au bureau, nous avons une équipe, je dis, qui travaille ensemble. Et c'est inspirant de voir cela. C'est inspirant. Verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme ou une femme aura semé, il le moissonnera aussi. Nous devons donc être très prudents à ce que nous planifions, à ce que nous faisons dans nos vies. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui ou celle qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Il est question ici de ce que nous planifions pour nos vies. La décision de notre jeunesse, ou les décisions, je devrais dire plus exactement, les décisions de notre jeunesse sont donc très importantes. Et la manière dont nous organisons nos vies est capitale. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous aujourd'hui. Il y a beaucoup de violence, de méchanceté, de ragots, de fausses informations et tout. Et il est facile de s'impliquer dans ces choses. Mais vous et moi, maintenant, nous sommes probablement très proches de la fin et peut-être plus proches que nous ne le pensons. Et nous devons réellement nous concentrer sur ce qui est important, nous rappeler pourquoi nous sommes nés. Qu'est-ce qui compte le plus pour nous? Qu'est-ce qui est important pour nous aujourd'hui? Notre destinée éternelle, pas ce qui se passe dans le monde. Ne nous impliquons pas à fond dans ce qu'il y a dans le monde. Nous pouvons utiliser, bien sûr, des choses qui sont dans le monde, mais notre objectif final, principal, ultime, c'est le royaume. C'est pour cela que nous sommes nés. Planifier nos vies est un exercice de toute une vie, c'est vrai. Et c'est une façon de penser, c'est un mode de vie également. Même une fois adultes et d'âge mûr, nous devons continuellement planifier. Chaque année, nous planifions ce que nous allons faire pour la fête. Nous prévoyons habiter dans un endroit précis. Nous prévoyons tel ou tel moyen de transport, qu'il s'agisse de sandales, simplement dans certaines parties du monde, d'un vélo, d'une planche à roulettes, d'une barque, d'une auto ou d'un avion. Nous prévoyons ces choses. Il nous faut aller d'un point A à un point B, voilà des choses que nous prévoyons. Et quand la vieille guimbarde ne fonctionne plus, nous prévoyons d'en acheter une autre. Quand nos souliers ou nos vêtements s'usent, nous devons les remplacer. Nous planifions nos repas, le genre d'aliments que nous consommons. Nous planifions notre journée. Quand nous voulons nous divertir, nous devons choisir quel divertissement choisir. Quel film regarder, quelle musique écouter, quelle publication lire, etc., etc. Nous prévoyons faire certaines choses en fonction de notre budget, de nos moyens financiers, etc., etc. Poursuivez la liste. Nous devons résister à la tentation de mettre la charrue avant les bœufs. Pour nous autres chrétiens, notre but, notre objectif ultime, c'est le royaume. Par conséquent, dans tout ce que nous faisons d'important, nous devons garder présent à l'esprit notre destination finale. Pour le monde, c'est le contraire. Pour la majorité des êtres humains, cette vie physique passe en premier. Pour beaucoup, pour des millions de soi-disant chrétiens, Dieu passe en arrière-plan. Ils vont à l'église le dimanche, bon, une heure, mettons, chaque dimanche, et puis après, boum, ils retournent dans le monde et c'est comme si rien ne se passait. On se retrouve dans le monde, on est impliqué dans le monde, mais pour eux, cet objectif ultime n'a pas d'importance, ils n'y pensent même pas. Mais pour vous et moi, c'est cela qui compte. Jacques chapitre 4, verset 13. Jacques chapitre 4 et le verset 13. À vous maintenant qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons et nous y gagnerons. » Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire « Si Dieu le veut. » Vous voyez, Dieu doit toujours être présent dans notre esprit. Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Quand nous planifions, nous devons nous souvenir quelle est notre ultime destinée. Planifier, c'est faire des projets. C'est ce que nous devons faire jusqu'à notre mort. Et nous devons garder présent à l'esprit que nous ne sommes pas maîtres de l'avenir. Dieu, lui, l'est. Il est maître de l'avenir. Un chrétien est quelqu'un d'actif, de courageux. C'est un bâtisseur. Est-ce que vous êtes un bâtisseur? Il ne s'agit pas nécessairement de bâtir des maisons. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire ici. C'est que nous ressemblons à Dieu. Dieu a placé dans l'homme des aptitudes extraordinaires. Moi, je vois les progrès technologiques qui ont été accomplis. C'est extraordinaire, même simplement la musique que nous pouvons entendre maintenant. La qualité de la musique, on écoute de la musique. Et c'est incroyable, la qualité du son, les images que nous avons. C'est incroyable, vous savez, ce que Dieu a mis dans l'homme. Incroyable. Alors, reportons-nous à Proverbes chapitre 6, verset 6 maintenant. Proverbes chapitre 6, verset 6. Nous sommes tous des bâtisseurs, nous devons être des bâtisseurs. S'il s'agit de bâtir des relations, d'aider les gens d'une façon ou d'une autre, nous devons tous avoir cette mentalité de bâtisseur. J'espère que vous me comprenez. Proverbes chapitre 6, verset 6. Proverbes chapitre 6, verset 6. Là, il y a une leçon. Salomon se sert de l'exemple d'un insecte minuscule pour nous faire réfléchir là-dessus. Proverbes chapitre 6, verset 6. Proverbes chapitre 6 et le verset 6. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle a jamais personne sur le dos pour lui dire, alors, au travail là, hein, fainéant, rappelez-vous là ici, va vers la fourmi, paresseux. Il s'adresse ici au paresseux, à celui qui ne fait rien. Bon, je ne veux pas dire que cela s'adresse à nous. Je pense que la plupart d'entre nous, nous travaillons dur. Mais il y a quand même une leçon à apprendre là-dedans. C'est que là, la fourmi sait ce qu'elle doit faire. Elle est au boulot tout le temps. Elle est active tout le temps. Elle bâtit. Elle est bâtisseuse. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle fait tout cela elle-même. On n'a pas besoin de la forcer. On n'a pas besoin de lui dire, hey, au boulot, hein, au travail. Non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de ça. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Agissons-nous seulement quand on nous y oblige? Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité, est-il écrit dans Proverbe 12 et le verset 27. Proverbe 12, 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le précieux trésor d'un homme. À nouveau, nous sommes des bâtisseurs. Nous bâtissons quelque chose qui va durer éternellement. Il est parfois bon, en fin de journée, de faire un bilan de ce que nous avons accompli. Avons-nous produit quelque chose? Avons-nous appris quelque chose de nouveau? Nous sommes-nous améliorés? Dieu a des plans. Avant d'accomplir quoi que ce soit, il réfléchit longuement et une fois qu'il a décidé, si nécessaire et si cela s'applique à nous autres humains, il informe ses serviteurs de ses intentions. Rappelez-vous ce qui est écrit dans Amos 3.7. Amos 3.7, je ne m'y reporterai pas, mais je citerai, « Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il prévient d'avant, voilà ce que je vais faire. Voilà quels sont mes projets. » Et l'Éternel a des projets grandioses pour vous et moi. Reportons-nous à Jean 14, Jean chapitre 14 et le verset 1. Jean chapitre 14 et le verset 1. Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point. Ici, il est question de la belle prière, la merveilleuse prière de Christ avant sa crucifixion, hein, avec ses disciples, ses instructions finales. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quand on réfléchit à ça, ça dépasse l'imagination. Waouh ! On va être aux côtés de Christ, on va être avec Christ, on va travailler ensemble. Nous allons être des bâtisseurs ensemble. Nous allons bâtir un monde merveilleux, tellement différent de celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est si décourageant, si terrible, si terrifiant. Dieu a des projets, il planifie, il a prévu un avenir stupéfiant pour nous. Planifier, c'est d'abord rassembler les faits, effectuer une sorte d'état des lieux, faire un bilan de ses avoirs, de ce qu'on possède, évaluer ses possibilités. Et ces possibilités changent d'une personne à une autre. Certains parmi nous ont beaucoup de possibilités et d'autres n'en ont que très peu. Mais faites du mieux avec ce que vous avez. Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons. Il ne va pas récompenser ceux qui avaient beaucoup de possibilités. Ceux qui ont beaucoup de possibilités sont beaucoup plus responsables que ceux qui n'en ont pas beaucoup. Mais Dieu voit les choses différemment de nous autres humains. Nous, on regarde des gens, quelquefois, on dit « Oh, formidable !» On s'émerveille devant certaines personnes, devant certains talents que ces personnes ont. Et on dit « Ah, moi, je voudrais bien faire ça !» Oui, mais quelqu'un qui a reçu beaucoup de talents, qui a grandi dans un milieu privilégié, par exemple, est davantage responsable que quelqu'un qui a grandi dans un pays pauvre et qui a reçu peu de choses. Et en comparaison, Dieu va probablement dire bien des fois à certains individus qui vivaient, hein, certains d'entre vous, qui vivaient dans des pays où c'est difficile, la vie est beaucoup plus difficile que parmi nous, il dira, bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, ben, je te confie beaucoup. Dieu va juger cela et nous serons probablement étonnés un jour. Parce que quelquefois, nous avons été simplement des serviteurs, pas nécessairement utiles, mais enfin, des serviteurs, c'est tout. Nous avons utilisé ce que nous avions, mais nous n'avons pas nécessairement produit beaucoup plus que nous aurions pu le faire. Dieu voit les choses différemment, mais nous devons planifier tout cela en fonction de ce que nous avons. Tant au niveau des biens physiques que de ses relations, et il y a un point de vue matériel et mental et spirituel dans tout ce que nous faisons. Reportons-nous à Proverbe 27 maintenant, Proverbe 27 et le verset 23. Proverbe 27 et le verset 23. « Connais chacune de tes brebis. » Bon, nous ne sommes pas tous des bergers, mais c'est une image. Si vous avez une image, et Dieu est fort efficace, très efficace dans les images. Il nous donne beaucoup d'images. Christ, dans les paraboles, il nous donnait des paraboles pour imager ce qu'il voulait dire. Des paraboles que la plupart du temps, les gens ne comprennent pas. Mais les chrétiens, eux, ceux qui ont le Saint-Esprit, comprennent. Ils comprennent davantage ces choses. Connais bien chacune de tes brebis. Donne tes soins à tes troupeaux. Il y a dans ce proverbe un aspect matériel et un aspect affectif, sentimental même, relationnel. Il est l'image d'un berger qui connaît ses brebis, qui s'occupe d'elles. Il s'acquitte de ses responsabilités envers elles, mais il a aussi de l'affection pour elles. Proverbe 24, verset 27. Proverbe 24 et le verset 27. Tout proche. « Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. » Chaque chose en son temps. Avant de bâtir une maison, il faut d'abord avoir un terrain où bâtir cette maison. Il faut d'abord avoir un terrain et puis le préparer. Vous savez, je regarde autour de nous, même pour notre bâtiment ici, au siège central, ici, à McKinney, il a fallu tellement de temps pour la fondation de ce bâtiment. Incroyable! Tout ce qui est impliqué dans la fondation, la préparation du terrain. Bon, il y a des bulldozers qui sont venus et puis qui ont nivelé le tout. Et puis, il faut préparer le terrain. Il faut mettre de la chaux ou je ne sais trop quoi pour préparer le terrain pour qu'il ne soit pas trop acide. Alors, avant même de construire un édifice, il y a toute une préparation. Et ça m'a frappé plus qu'à n'importe quel autre moment. J'ai dit, ah, c'est formidable comment ça prend presque plus de temps pour préparer le terrain que de construire. Parce qu'une fois que vous avez tout préparé, que votre fondation est là, la fondation c'est juste du ciment, mais pour en arriver là, vous avez tous les tuyaux qui sont en dessous, hein, l'électricité, l'égout, n'importe quoi, l'eau, etc. Pour préparer tout ça, il y a toute une préparation de base. Alors chaque chose en son temps, même chose dans nos vies, vous les jeunes, nous les moins jeunes, pour nous tous. Soigne tes affaires en dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Ces deux passages indiquent que nous devons commencer par établir nos priorités, ce qui est important. Nous devons également calculer ce que cela va nous coûter. C'est là un principe physique, mais aussi et surtout un principe spirituel. Luc chapitre 14, verset 25. Luc 14 et le verset 25. Luc 14, 25. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Priorité, à nouveau. Qu'est-ce que nous planifions? Qu'est-ce qui est important pour nous? Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Vous voulez une vie facile? Allez ailleurs. Vous n'allez pas avoir la vie facile si vous êtes dans l'Église de Dieu. Ça, je vous le garantis. Ça fait plus de 40 ans que je suis, ou même plus de 50 ans, même que je suis dans l'Église, et je vous garantis, la vie n'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile. Mais c'est une bénédiction extraordinaire quand même. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas une vie facile. Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Cet homme a commencé à bâtir, il n'a plus achevé. Quel idiot! Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes? Avec 20 000? Ah, il est bon de planifier, de dire là, ils sont trop nombreux, on va prendre la pâtée. Alors, là, il est plus sage de planifier sagement et de dire je préfère aller faire la paix avec l'autre roi. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Intéressant cette dernière phrase. Elle nous rappelle ce qui compte. Elle nous ramène à notre ultime destinée. Est-ce que nous planifions pour les choses de cette vie, les choses physiques, ou pour ce qui est divin? Spirituel, éternel. Planifier, c'est commencer par établir des plans. Chaque chose en son temps. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour tout, Ecclésiaste 3, versets 1 et 3 et autres. Nous avons tous en quelque sorte un compte en banque de secondes, de minutes, d'heures, de jours et d'années qu'il nous faut exploiter sagement. Que faisons-nous de notre temps? Que faisons-nous de notre temps? Psaume 90, verset 12, je vais me reporter, faute de temps, je le cite simplement à nouveau. Psaume 90, verset 12, il est écrit ceci: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Il est question de planification, d'organisation encore. En fonction de notre âge, les possibilités diffèrent. Il y a des choses que je ne peux plus faire. Ayant plus de 70 ans, je n'ai plus la même énergie, la même force. Ma mémoire me fait davantage défaut. Je dois tenir compte de ces limitations. Mes chevilles ne sont plus aussi fermes. Je ne peux plus courir. Je peux encore marcher, mais pas trop vite. Ma vue n'est plus ce qu'elle était. J'ai du mal à entendre. Mon esprit n'est plus aussi vif qu'avant. Mes repas ne sont plus aussi copieux. Mes dents se raréfient ou s'effritent. Ma digestion est laborieuse. Mes réflexes sont moindres. J'ai besoin d'une machine pour respirer quand je dors. J'ai des douleurs un peu partout quand je me réveille. Pour ainsi dire, tous les matins. Bon, après, une fois que je bouge, bon, ça va, mais quand je me réveille, j'ai mal partout. Bref, je dois davantage compter mes jours et appliquer davantage mon cœur à la sagesse. J'estime encore avoir beaucoup de choses à apprendre. Planifier, c'est être un bon serviteur aussi. Dans la parabole des talents, dans Matthieu 25, est évoqué Christ à son retour disant au fidèle serviteur qu'il a été fidèle ou bon gestionnaire dans le peu qui lui a été confié. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Je cite maintenant la Nouvelle Bible Second. Pour ce passage, la Nouvelle Bible Second, ils ont tourné un peu différemment. Il est écrit « Tu as été digne de confiance pour une petite affaire, je te confierai de grandes responsabilités. » Ça, c'est notre objectif, c'est ce que Dieu veut pour nous autres chrétiens. Planifier, organiser sagement sa vie, ce n'est pas faire les choses sur un coup de tête, ou à la va-vite, ou au dernier moment, sans réfléchir. C'est bien réfléchir à ce que l'on veut. C'est calculer la dépense. C'est bâtir sur le roc, sur quelque chose de solide. Ce monde va s'effriter, il va disparaître. Alors sur quoi bâtissons-nous? Sur quelque chose de solide, sur Dieu ou sur le monde? Nous devons miser sur ce qui compte vraiment, sur ce qui a des conséquences durables, définitives et même éternelles. Planifier sagement sa vie, c'est commencer par être réaliste aussi, tenir compte de sa situation, de ses limitations physiques, mentales, émotionnelles, psychiques. Nous sommes tous uniques à nouveau, nous sommes différents. Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous connaissez vos points forts, vos points faibles? C'est important. Nous devons tous savoir où nous péchons, dans le sens où nous avons des problèmes, où nous avons moins de volonté, où il est plus facile pour nous de chuter. Nous devons nous connaître. Ça, c'est incroyablement important. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Je reviens toujours à cela dans mon esprit. C'est incroyable la diversité que nous avons dans l'Église. Il y a même la diversité dans les épreuves. Il y a des frères et sœurs qui passent au travers d'épreuves que moi, je ne pourrais pas traverser. C'est incroyable la force de caractère qu'ils ont, mais enfin, je le serai grâce à Dieu, mais on sent qu'il y en a parmi nous qui ont une force, une résilience, une résistance extraordinaire face à la douleur, à des longues maladies. Un jour, Dieu va utiliser ces personnes-là dans le royaume pour aider d'autres, des milliers, des millions d'autres. Dirait, hey, je suis passé par là, je sais ce qu'on ressent, je suis passé par là. Notre ultime destinée, c'est à cela qu'il faut penser. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4, 1 Corinthiens 12, 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a plusieurs divers. J'ai vu cela aussi dans le ministère. Nous avons des ministres qui sont bons pour une chose et quelquefois pour plusieurs choses, mais nous avons tous des dons différents. Et les ministres ont leur ministère différent. Il y a des ministères différents. Et rappelez-vous que ministère, ça signifie service, servir. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. C'est lui qui est responsable des opérations. Et c'est lui, c'est Christ qui est en charge de son Église. Nous oublions parfois cela. Dieu voit tout ce qui se passe. Christ voit tout ce qu'il passe, tout ce qui se passe, et il est en charge de son Église. Et il s'arrangera pour que les choses soient faites à sa façon. Pas à la nôtre, à sa façon à lui. Et c'est réjouissant, c'est formidable. À chacun aura chacun, verset 7, la manifestation de l'Esprit donnée pour l'utilité commune. Ce n'est pas juste pour nous, c'est pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Et là, vous n'avez pas besoin d'être un ministre pour faire ça. Une parole de sagesse, n'importe qui peut avoir une parole de sagesse. C'est quelque chose qui s'apprend, la sagesse aussi. Alors, tout le monde peut apprendre à devenir sage en écoutant les sages déjà et en ayant l'humilité de se dire « moi je ne suis pas assez sage, j'ai besoin d'apprendre de quelqu'un d'autre ». Une parole de connaissance, il y en a parmi nous qui sont intellectuellement plus doués que d'autres, qui ont un bagage intellectuel assez important et qui peuvent aider les autres parce qu'ils ont appris davantage et ils ont la possibilité d'apprendre davantage. Leur cerveau travaille mieux que le mien. Vous avez des gens qui sont très doués, qui apprennent les choses rapidement. Pour moi, ça me prend beaucoup plus de temps d'apprendre quelque chose. Ça rentre difficilement là-dedans. Bon, ben, il y en a d'autres pour qui c'est plus facile. Nous avons chacun des dons différents. Et cela dépend souvent du milieu dans lequel nous avons grandi. Je suis un chrétien de première génération. J'ai grandi un certain nombre d'années avant de rentrer dans l'Église. Alors automatiquement, quelqu'un qui a grandi dans l'Église, qui dès le départ a eu les bons principes divins, a appris dès le départ dans quelle direction aller, etc. C'est beaucoup plus facile pour eux, une fois qu'ils sont adultes, de continuer dans la même direction. Mais nous avons des dons et des talents différents. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. C'est toujours le Saint-Esprit qui est derrière cela. Cette puissance, ce n'est pas question d'un individu, ce n'est pas une personne, le Saint-Esprit n'est pas une personne, hein, mais le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu, c'est l'essence même de Dieu. Un autre, la foi, par le même esprit, la foi à nouveau, vous n'avez pas besoin d'être ministre pour avoir une grande foi. Nous avons des membres dans l'Église qui ont une foi extraordinaire. Et il y en a par exemple qui prient, et si nous avons des problèmes, nous pouvons aller vers certaines personnes. Si je confie mon problème à cette personne, elle va prier et je suis certain que Dieu va entendre cette personne parce qu'elle sait comment prier. Nous avons tous des dons différents. Un autre, la foi par le même esprit, un autre, le don des guérisons par le même esprit. Je pense que c'est au pluriel, les dons des guérisons. Un autre, le don d'opérer des miracles, un autre, la prophétie, un autre, le discernement des esprits, un autre, la diversité des langues. Je pense que j'ai reçu le don de la diversité des langues. Ayant appris l'anglais, finalement, ben, je n'avais jamais prévu cela dans ma jeunesse, mais j'ai appris l'anglais et j'ai pu beaucoup l'utiliser par la suite et pour le bien de l'Église. Mais c'est un don que Dieu m'a donné que je n'avais pas au départ, je ne pense pas. De toute façon, je l'ai développé. Voilà un talent que j'ai développé. Alors, un autre, l'interprétation des langues. Bon, il y a des choses ici qui sont plus ou moins temporaires à certains moments dans l'histoire de l'Église. Et pas nécessairement à toutes les ères de l'Église, donc il faut faire la part des choses ici. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, comme il veut, comme Dieu veut. C'est Dieu qui décide de nos talents, à la base. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, grec dans le sens de non israélite, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Ça, c'est merveilleux. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps. Ne serait-il pas du corps pour cela? Si l'oreille disait parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps? Pour ça, nous avons besoin de l'oreille, nous avons besoin du pied, nous avons besoin de l'œil, etc. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était toute ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Et voyez-vous comme cela aussi. Dieu vous a placé dans son corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Je vous garantis que quand vous, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais quand vous vous faites mal au petit doigt de pied, quand vous mettez, laissez tomber quelque chose sur votre petit doigt de pied, j'aime mieux vous dire que tout le corps le ressent. Ça fait mal, ouh, ça fait mal, tout le corps le ressent. C'est presque comme si le restant du corps pouvait plus rien faire parce que, ah, ça fait mal. L'importance du petit doigt de pied. Plutôt, les membres du corps, verset 25, qui paraissent être les plus faibles, sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, etc. Tandis que ceux qui sont honnêtes ont... Mais chacun a sa fonction, à nouveau. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. 1 Pierre chapitre 4 et le verset 10. 1 Pierre 4, 10. À nouveau, dans ce contexte de planifier nos vies, de prévoir les choses, d'avoir un emploi du temps, de bien réfléchir à ce que nous allons faire, bien réfléchir à ce qui est important dans la vie. Quand on est jeune, mais aussi après, on planifie toute sa vie, on prévoit toute sa vie. C'est une façon de vivre, c'est une façon de penser, proactive en quelque sorte. 1 Pierre chapitre 4, verset 10, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, et ces dons que nous avons reçus individuellement sont des grâces de Dieu. » Que chacun de vous mette au service de lui-même le don qu'il a reçu. Non, c'est pas au service de lui-même, qu'il mette au service des autres. À nouveau, nous faisons partie d'un corps. Comment est-ce que nous pouvons contribuer, apporter quelque chose? Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Peut-être que votre don, c'est la prière. Envoyer des cartes à nos membres dispersés. Ça peut être beaucoup de choses. Peut-être vous pouvez aider physiquement à bâtir des choses et aider quelqu'un qui a besoin d'aide. Il y a divers dons, mais aider les autres. Éphésiens chapitre 2, verset 10, et comme Paul le disait aussi dans Colossiens 3, 23, il a dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. » Faites-le de bon cœur, pas parce que vous êtes obligé de le faire, mais faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Éphésiens 2, 10 maintenant, ça c'était Colossiens 3, 23 que je citais là, mais reportons-nous à Éphésiens 2, 10, Éphésiens chapitre 2 et le verset 10. Nous sommes son ouvrage. Rappelez-vous votre ultime destinée. La majorité des êtres humains n'a aucune conscience de l'ultime destinée de l'homme, de la raison pour laquelle chacun est né. Nous savons. Nous sommes responsables. Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Incidemment, ce verset va à l'encontre de ce que pensent des millions de croyants qui pensent que le chrétien n'a rien à faire, que Christ a tout fait à sa place. Oh, on est humain, on ne peut pas faire ce que Dieu a fait. c'est pas ce que la Bible dit. Nous devons produire, croître, porter du fruit. Quand nous planifions nos vies, nous devons nous souvenir que nous n'avons qu'un maître. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Nous devons nous souvenir de cela aussi, c'était dans Matthieu 6, 24. Matthieu 6 et le verset 24. N'essayez pas de devenir riche non plus. Dans Proverbes 23, versets 4 et 5, et je cite la Nouvelle Bible Second, il est écrit « Ne te fatigue pas pour devenir riche, cesse d'appliquer à cela ton intelligence. Tes yeux se lèvent vers la richesse, il n'y a plus rien, car elle se fait des ailes, et comme l'aigle, elle s'envole vers le ciel. » Nous devons tenir compte de tout cela. Je voudrais pour terminer, un dernier passage, que nous nous reportions à Apocalypse chapitre 3 et le verset 6. Apocalypse chapitre 3 et le verset 6. Comment est-ce que vous planifiez vos vies, frères et sœurs? Comment est-ce que nous planifions nos vies? Qu'est-ce qui compte le plus dans nos vies? Est-ce que nous avons les yeux sur cette ultime destinée? Qu'est-ce qui compte le plus? Ce qui compte le plus, c'est notre relation avec notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ. Apocalypse 3, chapitre 6. « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. « Voici ce que je dis, ce que dit le Saint, le véritable, celui qui est la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Je sais ce que tu fais parce que tu planifies, tu prévois, tu es un bâtisseur. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et cela ne s'applique pas seulement à l'Église, mais nous tous, nous avons cette porte ouverte devant nous. Les vrais chrétiens ont cette porte ouverte devant eux. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se dit juif ou chrétien, c'est une autre façon de le traduire, et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Et cela peut se produire dans le millénium, quand ils vont venir se prosterner à nos pieds, peut-être avant, nous ne le savons pas. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et il semble que nous soyons très proches de cette période, peut-être plus proches que nous ne le pensons. Celui qui vaincra, je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Je vous souhaite à tous une bonne fin de sabbat. Je vous souhaite tous bon courage et je vous dis au revoir et à bientôt.